Vous écoutez
RMC. RMC.
Il est là et j'appelle la police.
Non, 9h midi.
Quelle excellente journée pour un exercice.
Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Bonjour à toutes et à tous, il est 9h06, vous avez bien réglé vos montres, les grandes gueules du sport, c'est en direct sur RMC et c'est jusqu'à midi. Bon réveil à toutes et à tous, bon courage si vous travaillez et bonne route si vous partez en vacances encore aujourd'hui. Un gros programme ce matin, Benzema qui s'ajoute à la liste des joueurs blessés alors qu'on est à 3 semaines tout pile du mondial, avec les incertitudes autour de Pogba, de Varane, le forfait de Kanté. Est-ce que vous avez peur du fiasco pour les Bleus au Qatar? On en parle dans un instant. À 9h30, la punchline des GG, signé Lewis Hamilton, 37 ans, qui ne compte pas encore s'arrêter, alors qu'il est en négociation pour prolonger avec Mercedes. Il a dit qu'il ne se sentait pas vieux du tout. Est-ce qu'il y a une date de péremption pour les pilotes de F1? On en parlera avec The King, pas périmé du tout. Jean-Luc Roy sera avec nous. À 10h, les GG passent la seconde avant le tournoi de Paris-Bercy, le dernier grand tournoi pour Gilles Simon, qui va prendre sa retraite, lui, à 37 ans. L'occasion pour les GG de se pencher sur la carrière du garçon, parfois critiqué pour son style de jeu atypique, rarement mis en avant. Est-ce qu'on a été trop injuste avec le Niçois? C'est la question qu'on pose à nos GG ce matin. Et Eric Salio sera avec nous, notre spécialiste tennis, pour parler de tout ça. Et puis à 11h, le bras de fer des GG sur la nouvelle star du basket français. Tous les Américains peuvent maintenant regarder les matchs de Victor Wembanyama, puisque les matchs de Boulogne-Levallois sont désormais disponibles sur l'appli NBA. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est exceptionnel? Il faudra que les GG tranchent et choisissent leur camp. Avec ce matin, dans l'équipe des GG, une GG qui, comme Victor Wembanyama, essaie de vendre sa Betclic Elite un peu partout dans le monde, mais il a moins de succès. Stephen Brun est avec nous. Salut Stephen.
Salut François, salut tout le monde.
Ça va?
Ça va, en pleine forme, merci beaucoup.
En pleine forme. Une GG qui, comme Victor Wembanyama, a un nom qui score sévère au Scrabble. Sarah Pitkowski est avec nous. Salut Sarah.
Bonjour à tous. Oui, mais alors j'arrive à dire mon nom, en revanche, je vais m'arrêter à Victor.
Ah ouais, on peut l'appeler Wemby, non?
Wemby, il y a pas
ouais, mais moi, ce sera Victor.
Hein. Tu sais combien ça vaut ton nom au Scrabble? Sans compte double et compte triple.
Non, je ne sais pas.
22 points.
T'as compté 22 points.
Et tu sais combien ça compte Wembanyama? Combien ça fait au Scrabble?
Vas-y.
Plus ou moins, à ton avis?
Bah, plus.
Eh ben non, 22 points aussi.
Ah d'accord.
C'est incroyable.
Mais j'ai au moins ça en commun avec lui, non?
T'as pris 10 minutes ce matin pour compter.
Exactement. D'accord. Je vais demander à Pierre Amiche.
Mais comme il joue jamais, il ne sait pas que les noms propres.
Quand même.
Les noms propres, c'est interdit, François, au Scrabble.
Ah oui?
Mais il faut, ouais.
Non, mais il n'est pas propre, le mien.
Ça te regarde. Une GG qui, comme Victor Wembanyama, fait 2m24, mais là, on parle de tour de taille. Simon Dutin. Salut,
oh,
Simon.
C'est pas sympa.
Je suis passé à 2m22, François, là.
Ouais. Bon, c'est bien.
Bah, écoute, ouais, du sport, des légumes, de la soupe et dry October.
C'est en prévision de Noël, ouais. Ça.
J'ai fait double dry October.
Ah d'accord.
Un mois et demi sans boire une goutte.
Bon, ça se voit.
Nulle part, aucun dîner, aucun apéritif. Je le recommande.
Bah, félicitations. Mais faut pas reprendre à Noël. Hein.
Objectif, passer sous les 2m20 avant Noël.
Et puis une GG qui, comme Victor Wembanyama, a fait le show sur les parquets aux States, mais c'était plutôt au Wildcat Lounge de Santa Barbara. Salut Sophie.
Tu le connais, celui-là?
C'est un vrai club.
J'aime bien parce
Barbara.
Que à chaque fois que tu me présentes, tu me fais une réputation.
Mais attends,
c'est terrible.
C'est une réputation, c'est connu, hein.
Ouais,
là-bas,
ouais,
à Santa Barbara, puisque
ouais.
Tu as fait tes études,
mais tu
là-bas,
sais
que, on le rappelle.
Exactement, et c'était au moment du feuilleton Santa Barbara.
Voilà.
Et en général, à l'aéroport, quand je disais
pas,
que... Alors non, mais tu sais, je nageais à 5h30 le matin,
ah bon,
donc c'était compliqué de sortir le soir. Mais par contre, quand j'arrivais à l'aéroport et que je disais que je partais à Santa Barbara, on me disait, vous jouez dans le feuilleton, parce qu'il y avait que ça qui était connu à l'époque.
Ouais, tu connais la chanson, évidemment. Santa Barbara. Voilà, bon, ça c'est pour les plus âgés qui nous écoutent. Merci Albert.
Bien vu.
Magnifique. Je regardais ça avec ma mamie que j'embrasse d'ailleurs.
De vie.
Tout le monde regardait ça, c'était incroyable. Allez, pour commencer, le mondial, c'est dans 3 semaines exactement. Alors, si quelqu'un a le numéro d'un bon marabout pour Didier Deschamps, hein, c'est le moment.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Oui, Karim Benzema va manquer son 3e match consécutif.
Vous avez mal aux deux jambes et à un bras, c'est ça?
Raphaël Varane reste au sol. Le vice-capitaine de l'équipe de France a vu son genou droit se bloquer.
Là, vous avez mal?
Non. Pogba a repris la course le 4 octobre et l'entraînement collectif partiel depuis quelques jours.
Et si je fais ça?
Le sélectionneur a été ferme. Tous les joueurs qu'il emmènera au Qatar seront des joueurs aptes à débuter le match d'ouverture face à l'Australie.
T'es un menteur.
Je suis pas un menteur.
Il viendra pas s'il n'est pas apte. Si c'est venir pour venir.
Oh,
C'est faux.
Totalement faux, pas du tout ça.
On est dans la compétition, il y aura des compétiteurs et ceux qui seront sélectionnés seront aptes à répondre à ces exigences-là.
J'ai envie de te dire menteur. Menteur.
Il n'y aura pas de passe-droit en prenant des joueurs en phase de reprise pour espérer les avoir pour un hypothétique huitième de finale, par exemple.
Vous êtes en train de me dire qu'il a menti, vous le traitez de menteur.
Je lui dirai les mots bleus.
Décidément, sur les musiques, on est très, très moderne ce matin. Mais elle est très belle, cette musique. Hein.
Parce que celle-là est intemporelle.
C'est une spéciale pour vous. Nous sommes à 21 jours du Mondial, je le disais, et surtout à 10 jours de la liste de Deschamps. Oui, ça sera le 9 novembre que Deschamps doit dévoiler, je vais y arriver, sa liste pour le Mondial. Après Pogba, après Varane, Hernandez, Maignan, Koundé, le forfait acté aussi de Kanté. C'est au tour donc de Benzema d'être touché, même si le communiqué du Real Madrid se veut rassurant. Le Ballon d'Or ne jouera pas, en tout cas aujourd'hui en Liga. Aucune date de retour n'a été annoncée. Alors, les GG avec tous ces pépins physiques et pas de n'importe qui. Est-ce que vous avez peur du fiasco pour les Bleus au Qatar? Musique qui fait peur, spécial Halloween. Vous la reconnaissez évidemment. Oui ou non, peur du fiasco pour les Bleus au Qatar? Sophie Camoun.
Non.
Non. Simon Dutin.
Oui.
Oui. Stephen Brun.
Non.
Non. Sarah Pitkowski.
Non plus.
Non plus. Simon, tu vas être bien seul.
Hein, j'adore ça.
Juste avant de débattre, on va rappeler la méthode Dédé, puisque le sélectionneur a tenté d'édicter une règle. Mais ce n'est pas si simple, n'est-ce pas, Valentin Jamin?
Oui, Didier Deschamps a des règles, il les a exposées il y a environ 2 mois et les a répétées cette semaine lors d'un entretien à Brut.
Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition. Mais il y a quand même des étapes importantes. 1, que le joueur soit guéri. 2, c'est évaluer la condition athlétique. Tout dépend de la longueur de l'arrêt, le nombre de matchs qu'ils auraient pu faire entre leur blessure et le moment où ils seront avec nous. Et un troisième aspect, ses concurrences au poste.
Cela semble fermer certaines portes. Peut-il alors appeler Paul Pogba? Le milieu s'entraîne de nouveau, mais il ne reviendra pas avant le Mondial et n'a plus joué depuis le 19 avril dernier, opéré du genou. Mais le Français est plus qu'un joueur pour le sélectionneur. C'est un cadre, un relais essentiel dans le vestiaire et quand il le peut aussi sur le terrain. D'autant qu'N'Golo Kanté, lui, est déjà forfait. Raphaël Varane, autre cadre, est annoncé out pour les prochains matchs par son coach à Manchester United. Touché à une cuisse la semaine dernière, le défenseur central subit son physique fragile ces dernières saisons. Le choix sera peut-être plus tranché pour le deuxième gardien des Bleus, Mike Maignan, annoncé lui indisponible jusqu'en janvier selon son club à cause d'une blessure au mollet contractée le 22 septembre. D'autres devraient revenir sur les pelouses d'ici la liste du sélectionneur. Karim Benzema, joueur essentiel évidemment, il y a moins d'inquiétude avec sa cuisse gauche, mais il n'est pas à 100% aujourd'hui. Et il est donc laissé au repos pour la 8e fois de la saison, la 3e de suite. Enfin, Lucas Hernandez, joueur du Bayern, espère revenir début novembre. Il est absent depuis 1 mois et demi.
Merci beaucoup Valentin. Alors, est-ce que vous avez peur du fiasco pour les Bleus lors du Mondial? Tu as répondu non, Stephen.
Oui, parce que fiasco, c'est sous-entendu, la France ne sort pas des poules. Alors, on connaît cette tradition que le champion...
8e de finale, ça pourrait être considéré aussi comme un fiasco.
Mais moi, j'y crois pas, parce que plutôt que de se concentrer sur ce qui va pas, moi, j'ai envie de voir ce qui va dans cette équipe de France. Alors, on peut parler du cas Benzema. Pour moi, le cas Benzema, c'est juste de la précaution, parce que le Real Madrid aujourd'hui est leader invaincu de Liga, déjà qualifié en 8e de finale de la Champions League. Tu l'as dit, les chances de la Coupe du Monde est trop importante pour Karim Benzema, qui ne peut pas louper une deuxième Coupe du Monde consécutive. Donc je pense qu'on est plus sûr de la précaution et que Karim Benzema dit à Carlo, on va y aller mollo parce que moi je veux y aller à la Coupe du Monde. Mais il y a des choses qui sont positives dans cette équipe. Mbappé est en pleine forme, le secteur offensif est monstrueux. Griezmann, depuis qu'il a réglé son conflit Barcelone-Atlético Madrid sur son contrat, est brillant avec l'Atlético. Je crois qu'il a mis un doublé la semaine dernière en championnat. Ousmane Dembélé est monstrueux avec Barcelone depuis le début de saison. Et puis, ce N'Golo Kanté qu'on veut faire passer pour un drame, l'absence d'N'Golo Kanté, il faut bien se rappeler qu'N'Golo Kanté, c'est plus celui de 2018. C'est qu'il n'a quasiment pas joué depuis très longtemps avec Chelsea au milieu de terrain et que moi je préfère un Tchouaméni qui a été titulaire 16 fois déjà cette saison avec le Real Madrid et qui était, il faut le rappeler quand même, le milieu de terrain titulaire lorsque la France a gagné la Ligue des Nations, même si pour certains la Ligue des Nations est une compétition en bois, il était quand même titulaire au milieu de terrain et il a été très bon. Il y a des choses positives dans cette équipe et d'autres nations vivent les mêmes choses que nous. L'Angleterre est en souffrance, pas de Kyle Walker, pas de Calvin Phillips, le Brésil, Richarlison, on l'a vu sortir en larmes.
Que Neymar, il...
Oui, mais
sur la la Ligue 1.
Oui, mais il y a des nations. Oui, mais moi, je veux dire.
Ton meilleur joueur qui est en pleine forme.
Je pense qu'on a un réservoir assez puissant pour éviter un fiasco, parce que le fiasco, moi je pense qu'on va aller en quart de finale. Après, à vous de d'estimer si c'est un quart de finale, c'est un fiasco ou pas, quand on est champion du monde en titre. Mais moi je pense qu'il y a pas mal de garçons qui sont prêts à prendre la relève. Après, on pourra débattre de Varane. Bon, Varane sera là parce que Varane a joué des matchs avec United cette saison et que 3 semaines d'absence, ça va pas lui couper son rythme. Par contre, Pogba, pour moi, c'est terminé. Mais tu peux pas prendre un mec qui a pas joué depuis un an, même s'il est guéri. Je pense que dans les propos de Didier Deschamps, notamment chez Brut, chez nos confrères de Brut, ça laisse sous-entendre que Paulo Pogba verra pas la Coupe du Monde. Mais Varane sera là parce que c'est un pilier essentiel. Et Deschamps parlait de concurrence sur certains postes.
Mais il sera là dans quel état? C'est ça la question.
Mais il a joué tout le début de saison avec United, Varane. Donc 3 semaines, il reprendra. Il y a une différence entre la blessure de Varane et la blessure de Pogba. C'est pas la même. Oui. Le mec a joué des matchs.
Ça, c'est vrai. Là-dessus.
Moi, j'ai envie de voir du positif dans cette équipe-là parce qu'on a des ressources, on a des gamins et surtout, on a une attaque qui fonctionne à merveille.
Pas inquiet. Ok. Simon, toi, t'étais le seul à dire oui, on peut aller droit dans le mur quand même avec tout ça, toutes ces mauvaises nouvelles.
Oui, alors effectivement, Stephen a raison de rappeler que tout dépend de ce qu'on entend par le terme fiasco, mais si on sort en quart, de toute façon, ce sera un carnage dans la presse.
Deschamps
au moins demi, c'est ce qu'avait dit Noël Legret.
Ce sera un échec, effectivement. Là où je suis pas d'accord avec Stephen, c'est que pour moi les cas de Pogba et Varane sont les mêmes, parce que si tu prends mot à mot ce qu'a dit Deschamps, Varane il va pas rejouer avant le mondial, il aura pas eu de temps de jeu avant le mondial, il aura pas pu se préparer, tu prends pas Pogba, tu prends pas Varane, effectivement.
Non, c'est pas la même chose, Simon.
J'entends ton argument, OK, il a joué. Effectivement, Pogba il s'est pas entraîné depuis le 23 juillet.
Il est dans le même état de forme que toi, Pogba, Simon.
Ouais, je pense que je fais un tour de terrain de plus le dimanche matin.
Il va pas bien Pogba alors.
Non, après les contre-exemples, on est dans une Coupe du Monde d'un format inédit, mode de préparation, c'est du jamais vu. Il faut s'attendre à, je pense, une compétition qui ressemblera pas aux autres. Moi, je la vois un peu plus débridée, peut-être moins cadenassée dans les grands matchs.
Mais si tu vois la compétition débridée, elle n'est pas que pour l'équipe de France, toutes les nations en fait.
Exactement, et c'est un carnage un peu partout. Il y a des grands joueurs qui manquent. Stephen a commencé à le rappeler. Diogo Jota au Portugal, Reece James, Walker Phillips en Angleterre, Dybala en Argentine. Non, moi j'ai les souvenirs de l'Euro, le dernier Euro, on arrive, on est favori, on sort contre la Suisse. En 2002, on a le meilleur joueur du monde, Zinedine Zidane, la meilleure défense du monde. On est champion du monde en titre. On a le meilleur buteur de Serie A, David Trezeguet, le meilleur buteur de Première Ligue, Thierry Henry, le meilleur buteur de Ligue 1, Djibril Cissé, qui arrive au dernier moment. On se dit, on va tous les exploser.
Tu vas dans notre sens, en fait.
Exactement. C'est-à-dire que comme on n'a pas de grandes certitudes ou on n'arrête pas de donner la liste des joueurs qui vont pas être là.
Ce que je dis, c'est que c'est toujours illisible.
Donc pas plus ou moins un fiasco qui pourrait se qui
encore une fois tout dépend de ce que vous entendez. Moi la question c'est est-ce qu'on va aller en demi? Moi réponse c'est non. Voilà.
Simon, t'es aussi en train de dire que on peut faire tous les pronos possibles à chaque fois. Quelque part on s'est raté en 98, on devait se rater en 2018. Je me souviens qu'on a eu ces mêmes débats autour de la table. Il y a 4 ans, on disait que ça allait être une catastrophe. En 2002, au contraire, on marchait sur le toit du monde. On avait été champion du monde, champion d'Europe, on s'est fait sortir au premier tour. Donc finalement, ça sert à rien d'être pessimiste et ça sert à rien de sombrer dans le catastrophisme. Je dis pas qu'il faut être optimiste non plus, mais franchement, une compétition comme la Coupe du Monde, surtout au mois de novembre, parce que c'est vrai que les conditions sont très particulières là. Oui. Les joueurs vont avoir une semaine de préparation, ça va être le cas dans toutes les équipes. Finalement, aujourd'hui, ça sert à rien de sombrer d'un côté ou de l'autre.
Quand Varane ne jouera pas avant la Coupe du Monde, ça peut être gênant, mais on ne sait pas exactement comment il va se remettre de cette blessure.
T'as que Kanté et Pogba.
Part sans Varane, sans Hernandez, qui a pas beaucoup joué ces derniers temps non plus, en défense, t'y vas avec Badiachil, avec Saliba, avec Koundé,
Saliba,
même si c'est blessé hier.
Je vais te retourner la question. Est-ce que finalement c'est pas une bonne chose d'avoir du 109? Parce que quand tu regardes l'histoire de la Coupe du Monde, tu vois que très souvent quand les équipes ont été championnes du monde, elles repartent 4 ans après avec les mêmes. Ça a été le cas de l'Allemagne en 2018, ça a été le cas de l'Italie en 2010. Et à chaque fois, justement, de repartir avec des cadres comme ça, parce que le sélectionneur n'a finalement pas d'autre choix, ils ont été champions du monde, donc on va les remettre, et ça se crache à chaque fois. Donc partir avec des cadres qui ont été champions du monde 4 ans avant, c'est pas forcément un gage de réussite.
Enfin bon, donc Varane n'aura pas joué depuis un mois et demi. Pogba depuis un an et demi.
Depuis le mois d'avril.
Koundé là, il va pas jouer pendant au moins 3 semaines, 1 mois, on ne sait pas.
Exactement.
On attend des nouvelles. Ça sent à peu près bon pour Hernandez, mais bon, les adducteurs c'est jamais très bon. Il va peut-être revenir. Au pire, il va jouer quoi 2 matchs. Maignan est pas là. Giroud, on ne sait pas encore s'il sera là. Benzema là, il joue plus. Alors bon, il marche.
Alors
dans
Benzema,
l'eau.
J'ai noté parce que vous.
Non, mais termine. Effectivement, tout va bien. Coman nous a fait sa petite blessure et vraiment, on va les déboîter. Hein,
Benzema,
vraiment, moi, je suis confiant.
Pour l'instant,
on a un sens critique culturel qui est quand même très acerbe.
C'est pas ça, mais Benzema, par exemple, il a raté 9 matchs sur 18 avec son club cette saison. C'est pas anodin, c'est pas rien. C'est-à-dire que, certes, peut-être qu'il se ménage pour la Coupe du Monde.
Si il n'y avait pas la Coupe du Monde, il aurait joué plus de matchs peut-être avec le Real Madrid.
Peut-être, et peut-être que vraiment, il est diminué. Et un Benzema diminué, tu sais ce que c'est.
Et puis Pogba,
en l'occurrence, il a joué que 50% des matchs depuis le début de la saison.
On regarde des joueurs qui, effectivement, aujourd'hui, sont teintés d'une grande incertitude, mais le réservoir il est juste énorme. Vous arrêtez pas
mais
de le dire.
C'est une coupe du monde.
Et alors?
Le réservoir, tu vas pas sortir joueurs.
Les Allemands, les Espagnols, même les Brésiliens, quand ils regardent l'effectif français, ok, on a quelques joueurs qui pour l'instant ne vont peut-être pas être alignés, mais on a quand même une équipe qui a un énorme réservoir. Est-ce que les autres nations peuvent se prévaloir d'avoir autant de une attaque?
Oui, mais on n'a pas de certitude. Didier Deschamps s'est adapté à la nouvelle génération des joueurs. Il a voulu opérer une transition en changeant un petit peu de système pour s'adapter notamment à une sorte de pénurie de latéraux, ou en tout cas de modèles de latéraux qu'on n'a plus. On n'a plus de latéraux qui savent défendre. On a des mecs qui en revanche apportent quelque chose en attaque. Ce système, il n'est pas encore tout à fait maîtrisé. On a besoin de mecs qui tiennent le groupe. Pogba, je le disais hier, immense joueur devant le tournoi. Mais ouais, mais
Pogba, il jouera pas.
Tu le remplaces par qui? Il y a un moment, il y a le groupe, il y a les petits déj, il y a la cohésion, il y a le match nul.
Ah, ça va, Pogba, c'est pas appuyer sur play pour mettre une chanson dans le vestiaire.
Ah, mais attends, tu confonds avec Kimpembe et Mendy. Tu confonds avec Kimpembe et Mendy. Non.
Je peux y aller, je peux faire une playlist sur Spotify.
Tu caricatures, c'est indigne de toi, Stephen. Non, je suis désolé. T'as besoin, et encore une fois, on n'a rien inventé. T'as besoin de leaders, t'as besoin de mecs. Je suis désolé, le réservoir il est immense, mais t'as qui va tenir la barre?
Mais généralement, les leaders, tu remplaces par qui?
Alors, Tchouaméni qui a un profil.
Oui,
Tchouaméni
vient de dire, t'as Rabiot,
Rabiot,
Guendouzi. Là, t'es en train de citer des joueurs.
Mais Rabiot, si encore il volait avec la Juventus, je te dirais, ok, j'achète.
Titulaire, il y a de gagner.
À Lecce, gros, ouais.
À Lecce, ouais. Un café, Lecce, c'est bien. Mbappé, Griezmann, Benzema, t'as quand même 3 gros leaders, là, Simon. T'as quand même 3 mecs qui ont connu le très haut niveau, dont 2 qui sont champions du monde.
Mais Stephen, on a toujours envie de rêver de gagner la Coupe du Monde.
Griezmann, dans quel état, François?
On a toujours envie. Griezmann, la question se pose, je suis désolé, dans quel état? Bah, Griezmann,
il est pas mal.
François, si t'es venu là, pour à chaque fois contredire tous les arguments, tu sors.
C'est plus le même Griezmann. Et ça sera peut-être un problème pour Didier Deschamps. Parce
mais
que
ce
quand,
sera pas le même
quand
Pogba,
il sera
même
pas
s'il
bon
est
dans le premier match, est-ce qu'il pourra le mettre sur le banc?
Il y aura des cas à faire. Tu devrais travailler à CNews parce que t'es anxiogène. Tu veux nous filer la peur.
Je connais pas cette chaîne. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je connais pas cette chaîne. Bon, on a fait le tour sur l'équipe de France. Vous n'êtes pas inquiet finalement.
Non, on n'a pas dit qu'on n'était pas inquiet.
Vous avez dit que tout allait bien.
Tu nous as dit, est-ce qu'on a peur du fiasco? Non, nous n'avons pas peur du fiasco. Oui,
parce qu'ils savent que ça va arriver.
C'est toi qui prépares les questions et tu les déformes à la fin.
Ils savent qu'on y va
pas
de droit.
Je vous écoute avec attention.
François, on n'aime pas la polémique dans cette émission. C'est pour ça qu'on s'est bien gardé de parler des histoires entre Pogba, Mbappé.
Ah bah non, on va pas.
Je suis à 2 doigts de rappeler que Jean-Christophe Drouet, qui prend sa 43e semaine de vacances l'année, mais là, quand même.
Il a beaucoup trop de congés payés, celui-là. En tout cas, la liste, c'est le 9 novembre, on suivra ça de très près, sachant que la FIFA attend une liste définitive le 14 novembre, donc ça arrive très vite.
Le 9 novembre, c'est pas dimanche prochain, c'est le mercredi qui suit.
Exactement, c'est ça, tout à fait. Allez, dans un instant, les grandes gueules du sport reviennent avec la punchline signée Lewis Hamilton, le pilote Mercedes qui envisage de continuer sa carrière au-delà de 40 ans. Est-ce bien raisonnable? On en débat avec le King, Jean-Luc Roy, qui sera avec nous. Il a dépassé un peu les 40 ans. A tout de suite dans les GG.
Tu me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, non? Hein? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non?
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
9h28 sur RMC, de retour dans les GG du sport, votre émission du week-end jusqu'à midi, toujours avec Simon Dutin, Stéphane Brun, Sophie Camoun et Sarah Pitkowski. À 9h45, le zapping des GG, la première partie de on s'en fout pas. On parlera notamment de l'Olympique de Marseille qui hier soir a fait match nul, 2-2 contre Strasbourg avec un but incroyable de Kevin Gamero. On parlera peut-être aussi des Lakers qui vont mal, Stephen. Et puis un événement, je dois vous en parler évidemment, puisque ce soir c'est Novak Djokovic, l'invité exceptionnel de Bartoli Time, l'émission de Marion Bartoli, à retrouver tous les dimanches de 19h à 20h. Novak Djokovic, donc, à écouter, le champion serbe, au micro de Marion Bartoli et de Flora Moussi. Mais d'abord, la punchline des GG ce dimanche, c'est Lewis Hamilton qui nous l'offre alors qu'il est en train de discuter pour prolonger chez Mercedes.
RMC, la punchline GG.
Je ne me sens pas vieux du tout, je me sens jeune, je ressens toute l'énergie dont je dispose encore aujourd'hui au travers des entraînements. Je m'imagine bien rester ici, au-delà de mes 40 ans.
Merci Siri, je savais pas qu'elle avait 40 ans passé.
Mon quart d'heure de célébrité.
Merci beaucoup Siri, on t'embrasse. Avant le Grand Prix du Mexique, le pilote britannique s'est donc exprimé sur son avenir. Il est en pourparlers avec Mercedes pour continuer l'aventure et il l'a dit, vous l'avez entendu, qu'il pourrait continuer au-delà de ses 40 ans alors qu'il a 37 ans actuellement. D'où cette question, les GG. Y a-t-il une date de péremption pour les pilotes? Oui ou non, Sarah Pitkowski?
Bah et puis quoi encore?
Donc non. Stephen Brun?
Non.
Non. Simon Dutin?
Oui.
Oui. Sophie Camoun?
Non.
Non. Décidément, Simon.
Et coucou.
Il est courageux. Voilà. Avant de vous entendre, pour débattre, on va accueillir peut-être...
Non, je vous déteste.
On va accueillir quelqu'un qui va peut-être venir au soutien de Simon, on verra.
Lui qui n'a pas de date de péremption.
Un homme qui n'a aucune date de péremption, exactement. Non, Jean-Luc Roy, salut Jean-Luc.
Comment dois-je vous qualifier, oui. Bonjour à tous. Bonjour mesdames.
Alors Jean-Luc, au niveau des chemises, c'est quand même plus que c'était.
Ah bon? Ah,
moi j'ai trouvé une réaction.
Tu as gagné. Je me suis dit que j'allais vous mettre une petite note de couleur.
Je suis tombé dans un classicisme qui
vous... Si vous perturbe. Alors, bon, oui, oui. Ça, c'est très bien si je vous perturbe.
Que, évidemment, tout le monde ne nous regarde pas.
Ne rosie pas, ne rosie pas.
C'est une chemise couleur, d'une couleur un peu indéfinie entre le bleu et le vert.
C'est la dernière qui reste à la outlet.
Hamilton, donc.
C'est la outlet à Miami à 0,99€.
Parce qu'il est bien vu, capuchon, là. Alors qu'il fait 42 degrés, mais si.
Il n'a pas encore mis la capuche.
Bon, il n'a pas mis le passe-pantalon.
Pour parler de Lewis Hamilton, d'ailleurs, cette question, quel est l'intérêt pour lui de vouloir continuer, puisque c'est...
Je te pose la question, François, quel est l'intérêt pour lui de continuer? Bon, alors, on va commencer dans l'ordre. Moi, je pense qu'il n'y a pas, évidemment, de date d'opération. J'en suis l'illustration encore vivante, ça ne va pas durer, je vous rassure, comme tout le monde, d'ailleurs, autour de cette table. Alors, je pense qu'un pilote, quand il a la moelle, quand il a l'attaque, quand il a la volonté, quand il a le goût, ce qui est le cas manifestement d'Hamilton, même s'il y a eu un trouble, on va y revenir probablement, puisque nous avons deux heures, dans la première moitié de la saison où il était outrageusement dominé par son jeune équipier George Russell qui débarquait. Là, on vient de le voir encore au qualif hier, il termine à 5 millièmes seulement de Russell, 3e temps, avec une machine certes qui évolue, mais enfin, le meilleur ennemi c'est toujours effectivement ton équipier, et il démontre là qu'il a retrouvé la niaque, il a retrouvé la compétitivité à 37 ans, tu l'évoquais, il en aura à 38 au début du mois de janvier. Il avait déjà un contrat jusqu'à la fin de la saison 2023. Donc là, on parle de renouveler, puisqu'il y a l'exemple de Fernando Alonso, qui voulait absolument un contrat pour 2 ans. Et c'est la raison, une des raisons, pour lesquelles il n'est pas resté chez Alpine, alors qu'Aston lui proposait 2 années. Alonso, qui a 41 ans. On a eu Kimi Raikkonen avant, qui est parti à 42 ans. Bref, en deux mots, si on doit expliquer les raisons pour lesquelles les pilotes semblent maintenant piloter plus longtemps qu'auparavant, ben il faut oser le dire, et je vais le dire, c'est moins pénible à piloter une Formule 1 aujourd'hui que ça l'a été il y a quelques temps. Mais je sais, vous allez me dire, eh oui, avant c'était mieux. C'était pas mieux, c'était différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une boîte dont on change les rapports juste avec des petites palettes, on monte et on descend, on a une direction assistée. Alors on prend des jets, certes, dans la voiture est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup moins vive, ceux qui ont connu les monoplaces comme Alonso justement le disent, donc elle est moins exigeante physiquement déjà, donc il faut oser le dire, ces gens-là sont quand même des athlètes, mais les monoplaces sont moins difficiles à emmener, donc ça permet d'avoir une longévité supérieure. Deuxièmement, il faut le dire aussi, il y a moins de danger. Beaucoup moins de danger, même si on a eu malheureusement...
Moins de danger, ou plus de sécurité.
Plus de sécurité, sécurité, si tu préfères. Mais moi, j'ai connu une époque où, malheureusement, il y en avait 4 à 5 par an qui ne continuaient pas.
Nous disais quand même l'autre jour, Jean-Luc, avec les nouveaux grands prix là, qui sont organisés un peu partout en ce moment, il y a quand même des conditions de sécurité qui sont un peu plus compliquées.
Bien sûr, évidemment...
Tu trouves une grue sur le circuit, quoi.
Non, mais ça, c'est dramatique, c'est tragique. Oui, effectivement, je dis disais ça, mais les monoplaces, et c'est un bien, hein, comprenez-moi bien, en aucune manière on ne peut le regretter, mais ça explique la longévité, ça explique que des pilotes qui, à une certaine époque, moi j'ai connu, pratiquement tous les pilotes que j'ai connus, se sont fait mal ou très mal, donc se sont brisés les jambes, Jacques Laffitte, Jean-Pierre Jabouille, etc. On va arrêter d'en parler, Didier
Pironi. Mais quel est le rapport avec l'âge?
Alors, reviens, que tu le veuilles ou non, et je pense que dans tous les sports c'est pareil, il y a une usure qui est due, une usure mentale, c'est-à-dire que quand tu es jeune, rien ne peut t'arriver, jamais. Je veux dire, vous avez été des champions de haut niveau, presque tous, donc vous savez ce que c'est, on ne se pose aucune question. Quand on arrive à 35 ou 40 ans, on commence malgré tout à se poser des questions. Dans un certain nombre de cas, non mais on a des enfants, on est éventuellement marié, on a des responsabilités. On commence à se dire, finalement, on prend goût à la vie, j'ose dire. Alors que quand on a 25 ans, ça ne compte pas. On a une passion et on la vit à fond. Donc ça peut être aussi une des raisons. Alors dans le cas d'Hamilton, puisque c'est ce qui nous intéresse, je vais terminer malheureusement par une note qui n'est pas enthousiasmante. C'est quand même, quand on prend 70 millions de dollars par an, on se pose la question. Moi, quand il y avait tout le cinéma en début de saison sur je vais venir, je vais pas revenir, et qui était également avec Toto Wolff qui disait au milieu, on sait pas, il a été vraiment choqué. Mais non, il avait un contrat de 2 ans avec Mercedes jusqu'à fin 2003. Mais il y a un moment. Alors, attention, un pilote ne roule pas pour l'argent. Mais enfin, on va dire que ça facilite un certain nombre de choses. Et je pense que sa reconduction de contrat à ce niveau-là, c'est de loin le pilote le plus payé de la Formule 1, ça peut aider à se faire une raison. Surtout quand on se voit pas non plus un avenir ailleurs. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que Lewis Hamilton va faire. Et c'est le grand vide que vous avez tous connu également. C'est-à-dire, quand ça s'arrête, faut bien trouver une autre raison d'avancer.
Alors, ils ont RMC maintenant.
Alors, quand on avance encore bien, c'est le cas de Lewis Hamilton, qu'on est dans l'une des toutes meilleures équipes et qu'en plus, l'écurie vous fait un pont d'or, je comprends qu'on puisse être tenté. Alors, c'est paradoxal, que, encore une fois, à un moment, il a laissé planer le doute sur le fait qu'il allait continuer.
On va te garder, Jean-Luc, même si
merci,
nous a mangé le chrono, comme on dit.
De toute façon, j'allais pas partir, j'allais rester là.
Ça s'appelle manger le chrono.
Vous m'avez dit qu'on avait 2 heures, moi, je sais pas, j'ai pas compris.
Simon, puisque tu es le seul à avoir dit qu'il y avait une date de péremption chez les pilotes, défends ta position courageuse.
Courageuse, je sais pas, mais c'est mon point de vue. Lewis Hamilton, effectivement, c'est un carnassier. Il court après le record. Il veut rester le GOAT, le plus grand pilote de l'histoire. Il a 37 ans. Les deux seuls pilotes dans une époque comparable, je parle encore sous le contrôle du King, qui l'ont fait plus âgé que lui, qui ont été champions du monde, plus âgé que lui, c'est Prost et Mansell. Prost a 38, Mansell a 39 ans. C'était il y a quasiment 30 ans. Ils couraient sur une Williams Renault qui à l'époque n'avait dominé. Aucun concurrent au niveau performance. Donc ça c'est factuel, personne ne l'a fait. Donc effectivement, peut-être que Hamilton, s'il devient le GOAT, il faudra qu'il aille chercher ces barres-là. Schumacher, son dernier titre, il a 35 ans, il est considéré le meilleur. Il y a que Fangio en fait qui a gagné son premier titre à 40 ans.
Oui, mais c'était exceptionnel, c'est l'époque.
C'est ça, voilà, il y avait 4 vitesses
juste après la guerre. Oui,
et les freins au volant. Je termine juste. Lewis Hamilton, il a tout gagné malgré tout. Même s'il veut aller chercher ce record, tu sors moins facilement pour aller chasser le gibier quand t'as déjà bien mangé quand même. Quand t'es repu, donc forcément peut-être. Moi, je pense qu'il va lui manquer quand même. Il est dominé par Russell cette saison avec une Mercedes qui a des problèmes de développement, certes. Alors il se dit, c'est trop haut pour moi, mais que effectivement ils avaient peut-être une année d'avance sur le développement, donc du coup ça a retardé un petit peu leur performance cette saison. Si vous prenez pas les titres de champion du monde, c'est les vainqueurs de Grand Prix les plus âgés dans le top 10. Alors là, je suis allé sur Wikipédia, effectivement on n'en connaît pas un seul, le seul qu'on connaît c'est Nigel Mansell, à part Fangio encore une fois, c'est Mansell à 41 ans, donc c'était il y a 30 piges. Pour les pole positions, à peine mieux, le seul espoir Raikkonen en 2018, il l'a fait à 38 ans, et Prost
l'a fait à 38 ans. Je termine avec cette année 39 ans.
Je termine avec
Austin, je crois.
Avec cette anecdote de c'est Niki Lauda hein, la légende. Il avait été directeur ou conseiller technique chez Jaguar ou quelque chose comme ça.
Et Mercedes.
Les Jaguars, souviens-toi, les Jaguars. Il dit attendez, je vais la tester la bagnole quand même là. Moi,
tu parles de ça.
Je vais me mettre au volant, je vais vous donner mes sensations. Moi, j'ai été champion du monde et tout. Ouais. Il fait donc sur je ne sais plus quel circuit, il part, premier virage, bac à gravier. Il retourne au stand, deuxième tentative. Bah, je ne sais pas combien de fois il s'est foutu dans le gravier. Mm-hmm. Il y a un conseiller technique qui est venu lui dire bon, monsieur Loda, on va s'arranger pour le développement de la voiture, on va vous servir un café. Donc, oui, il y a une date de péremption et effectivement.
Oui, mais il avait arrêté la compétition depuis 20 ans. Hein,
ouais. Enfin,
c'est 25 ans, voilà. C'est ça qui exagéré, mais malgré tout, il n'avait que 52 ans.
Bon, moi, je pense vraiment qu'on peut être compétitif, mais tout est une question d'état d'esprit. Et d'ailleurs, Hamilton le dit, c'est une question d'état d'esprit. Je pense que les grands champions comme Hamilton ont un ego. Et que s'ils décident de continuer, c'est pas pour se prendre des mines, quoi. C'est-à-dire que je pense que ils continuent pas pour l'argent, même si tu dis effectivement Jean-Luc que bon un petit billet de 70 millions ça peut.
Ouais,
mais il en a de l'argent. Il continue pas, à mon avis, ni pour vraiment pour l'argent, ni pour la gloriole. En tout cas, c'est pas ce qui le motive au quotidien. Je pense qu'il continue simplement parce qu'il pense qu'il peut être encore compétitif. Et c'est vrai qu'à 40 ans, bah il y a de nombreux exemples qui le montrent dans plein de sports. C'est encore possible de garder à la fois une super condition physique parce que il faut une condition physique. Moi, j'ai entendu dire qu'on perdait 3 à 5 kilos d'eau dans chaque Grand Prix. On encaisse des forces de 5G, que le casque pèse 40 kilos. Enfin, je crois qu'on a du mal à se rendre compte à quel point il faut une super condition physique, il faut un cardio, il faut de l'endurance. Et je pense qu'à 40 ans, tu peux avoir toutes ces facultés-là à condition d'être évidemment encore plus focus qu'à 30 ans. Parce que le problème à 40 ans, c'est que tu récupères moins vite, c'est que tu te blesses plus facilement aussi. Donc, il faut avoir une super hygiène de vie. Mais il ne faut pas oublier non plus que des champions comme Hamilton sont des champions hors normes. C'est-à-dire que tu peux regarder toutes les études physiologiques, les études médicales, etc. Tu verras qu'on te dira que le corps de 40 ans ne peut plus faire certaines choses, mais on a quand même affaire à des personnes qui sont totalement hors normes. Donc,
ouais, mais tu l'as dit, il faut être compétitif. Il faut pas être en fond de grille et se traîner avec le même. C'est pas le cas. Actuellement. Mais je veux dire, là, on parle de quand il aura 40 ans, donc dans 3 ans, tu ne sais pas comment ça peut se terminer.
Mais Fernando Alonso, il a 40 ans, il est en fond de grille.
Lewis Hamilton est dans une écurie qui sera compétitive. Quand tu es chez Mercedes, tu seras forcément compétitif. Et tu sais que dans un sport mécanique, il y a aussi le talent de pilotage. Et moi, je pense que Lewis Hamilton, il les a encore. Quand on voit les temps de réaction au départ, il me semble pas en retard par rapport aux autres. Et qu'avec Mercedes, il sera toujours dans la compétition. Et je crois que ça lui tient à cœur parce qu'on est en train de lui taper dessus à Lewis Hamilton. Il y a des propos, je sais plus qui avait dit ça. J'ai lu ça récemment, que Lewis Hamilton avait été un champion, qu'il y avait plus de respect pour Max Verstappen.
C'est Alonso.
Alonso qui a plus de respect, c'est
la vieille rivalité entre les deux.
C'était plus difficile à son époque de gagner. C'est ce que dit Alonso qu'à l'époque d'Hamilton.
Oui,
Hamilton, il n'avait que son coéquipier à battre, et je crois que
Lewis Hamilton a peut-être envie aussi d'être champion du monde dans une Formule 1 beaucoup plus concurrentielle qu'il n'avait été par le passé lorsqu'il a gagné la fleur au fusil. Donc ça, ça fait partie d'un challenge aussi. Mais il n'est pas abîmé pour moi, Hamilton, par la F1. Je crois qu'il n'a pas eu d'énormes accidents, il n'a pas eu d'énormes blessures, donc il n'est pas abîmé par la F1. Moi, je crois qu'il va vouloir aller chercher quelque chose. Et quand il voit les progrès de sa voiture là actuellement, la semaine dernière, il se bat pour la victoire.
Ben là, il se battait pour la pole, hein, hier.
Donc moi, je pense que Hamilton, il est frais et il peut y aller. Il n'y a pas de date de péremption. Surtout qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, pas forcément en Formule 1, tu vois des mecs qui performent à 38, 39, 40 ans. Il faut arrêter de se mettre cette barrière psychologique.
Jean-Luc, qui c'est qui part juste devant lui ce soir?
Russell.
Qui fait une grosse erreur dans son dernier tour et sinon qui aurait pu. Alors, l'écurie lui a dit c'était peut-être un peu hors d'atteinte pour le consoler, mais sans cette erreur, il partirait.
Le fait est qu'ils sont à 5 millions.
Il l'a dominé toute la saison sur la même bagnole. Et là, t'oublies, il y a Verstappen qui est pareil, un carnassier, qui a une bonne bagnole. Il y a les Ferrari qui ont tout raté en course, mais qui sont.
Mais on ne peut pas attendre quoi de Lewis Hamilton. La question, c'est de savoir s'il peut être encore compétitif. On n'a pas posé la question s'il va être champion du monde.
Ah bah c'est comme ça que je l'ai entendu.
Déjà d'aller regagner des grands prix, ce serait déjà d'inverser une forme de cycle qui commence à être un peu négatif pour.
Déjà, c'est
pour
la première saison où il n'en gagne pas.
Oui, et Hamilton, dans sa déclaration, Hamilton, il dit je veux.
apporter encore d'autres titres à l'écurie. Il précise pas si c'est pilote ou constructeur, mais lui, il se voit encore gagner. Et c'est ce qui fait sa force, hein. D'ailleurs, il est persuadé qu'il est toujours le meilleur et que, effectivement, il est supérieur au mec contre qui il
joue. Jean-Luc, moi, il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu as dit tout à l'heure. Et effectivement, est-ce que tu penses vraiment que quand t'es plus âgé, tu prends davantage conscience du danger et tu peux avoir davantage d'appréhension? Parce que Senna, je me souviens, il est mort, il avait quoi, 34 ans ?
34 ans.
34 ans, il disait avant la course qu'il avait peur d'y aller. Alors, est-ce que c'était uniquement lié aux conditions de sécurité qui étaient catastrophiques ce jour-là, ou est-ce que quelque part, il prenait de plus en plus conscience?
Alors là, il nous faut deux heures à nouveau. Ah, je vais essayer de répondre. Ça n'a rien à voir ni avec l'âge. La voiture qu'il pilotait était dangereuse, il le savait, pour plusieurs raisons. Il avait signé les trois pôles, dont celle-là, à Imola, et en course, il avait des problèmes sans arrêt, et là, il ne la sentait pas.
Puis il aurait eu la même appréhension.
Il y avait eu Ratzenberger, s'était tué la veille, et lui était le seul pilote qui ait jamais eu qui se soit rendu sur les lieux dès qu'il y avait un accident. Il voulait comprendre pourquoi cet accident s'était produit et les raisons pour lesquelles ça s'était mal passé,
mais
etc.
C'est prise de conscience. Est-ce qu'il l'aurait eu 10 ans avant? Est-ce que finalement, c'est pas l'âge qui...
Il a toujours été comme ça, quand même, assez soucieux de sécurité, etc. Alors, bien sûr, ça a été exacerbé, effectivement, avec le temps, oui, bien sûr. Et puis, les conditions de cette saison-là, qui était une saison atroce pour lui.
Juste pour finir, Jean-Luc, et on va te remercier, on note quand même qu'il y a plus en plus de pilotes de plus en plus jeunes. Et les pilotes veulent quand même essayer de rester, mais ça pousse derrière.
Des pilotes de plus en plus jeunes et de plus en plus mauvais.
Ah, ça, après, non, ça, alors là, c'est caricature.
Il y a encore deux heures.
Bah oui, écoute, non, mais je veux pas te laisser dire ça. Parce que Verstappen, à 17 ans, il est mauvais.
Latifi, bon pilote.
Non, mais Verstappen, quand il arrive.
Non, mais ça, des pilotes payants, pour être clair, il y en a toujours.
C'est pas une question d'âge.
Ça, c'est pas une question d'âge.
Mauvais ou pas.
Ça, c'est un sport. Alors, c'est un autre élément qu'on n'a pas avancé qui nous permet d'avoir deux heures supplémentaires. C'est que c'est un sport où l'élément mécanique joue un rôle très important. C'est-à-dire que dans les sports que vous avez tous pratiqués, enfin, ou presque, ce sont des sports où le physique est important, il n'y a pas de matériel derrière. Alors que là, oui, sport mécanique, ça veut dire qu'il faut avoir la mécanique pour avoir.
Quand il veut dire que Latifi sur Red Bull, il serait champion du monde.
On disait parfois que dans une Mercedes, les années précédentes, il y a beaucoup de gens qui auraient été champions du monde, mais c'est méchant.
Merci beaucoup Jean-Luc. Jean-Luc, on rappelle le départ du Grand Prix du Mexique, c'est 21h ce soir avec donc Verstappen devant Russell et Hamilton. On parlera de Formule 1 sur RMC. Merci beaucoup. Dans un instant, le zapping des GG, on parlera de l'Olympique de Marseille qui a fait match nul contre Strasbourg hier en Ligue 1. A tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous dans les Grandes Gueules.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Il est 9h50, bientôt sur RMC, les Grandes Gueules du Sport. Ce matin, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Sophie Camus, Stephen Brun. À partir de 10h, les GG vont passer la seconde et vont aller sur les courbes pour les derniers échanges de Gilles Simon, le tennisman français qui va tirer sa révérence à Bercy cette semaine. Est-ce qu'on a été injuste avec Gilles Simon? On en parle à 10h. Mais d'abord, dans les GG, on s'en fout ou on s'en fout pas?
RMC,
le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Rappel les règles, plusieurs infos à vous donner, des infos de la semaine. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, on passe l'info. Sinon, vous avez le droit de parler si ça vous intéresse. Première information, c'était hier soir l'OM qui fait match nul contre Strasbourg après avoir mené 2-0 en Ligue 1. On s'en fout, on s'en fout pas? Sophie Camus.
Je m'en fous.
Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Stephen Brun.
Je m'en fous pas.
Sarah Pitkowski.
Bah non, je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas. L'OM qui menait tranquillement et logiquement après une première mi-temps 2-0, une première période réussie. Et finalement, ils perdent quand même deux points en concédant ce match nul avec un très beau but au passage de Kevin Gamero. On va écouter Igor Tudor juste avant de vous écouter, vous. Très mécontent après le match, le coach de l'OM.
Je suis particulièrement triste et déçu ce soir. En première mi-temps, on devrait gagner 5-0 et même avec le 2-0, ça ne suffit pas. Et ce n'est pas une question de pression ou pas. On doit finir et tuer le match. Si on reste derrière le ballon, il n'y a aucune chance pour l'adversaire de marquer deux buts sur la fin de match. Ce sont deux buts donnés vraiment beaucoup trop facilement.
Stephen, pourquoi tu t'en fous pas alors?
Je m'en fous pas parce que Tudor est en train un petit peu de tuer le bon début de saison de l'Olympique de Marseille.
Ah, c'est de la faute de Tudor alors pour toi?
Je, trouve qu'hier il ouvre trop tôt son banc à 2-0 en prévision du match parce que le problème c'est qu'il a déclaré depuis 5 jours que c'était le match le plus important de l'année face à Tottenham. Je trouve qu'il ouvre trop tôt son banc et puis il y a des attitudes honteuses. Nuno Tavares qui a joué un match catastrophique, Gerson qui chiale toute la semaine parce qu'il joue pas, il fait une entrée en jeu calamiteuse. Après Tudor, ça devient de plus en plus lisible en fait, ses coachings de l'Olympique de Marseille, ses changements, ses rotations, des mecs qui sont au placard, des mecs qui reviennent. Là tu perds, tu fais match nul, ça fait 3 défaites et un nul en Ligue 1, t'es plus sur le podium, tu peux redescendre à la 5e ou la 6e place. T'as intérêt à gagner contre Tottenham, mon grand, parce que si tu sors pas de cette poule de Ligue des Champions, je pense que ça va être le fire à Marseille.
C'est bon.
Je suis absolument pas d'accord avec Stephen. Je trouve au contraire qu'il y a des signes très positifs.
Ah, c'est connerie,
hier, moi, je les voyais perdre à Strasbourg. Je trouve que il a raison. Il a raison à la mi-temps. Ils doivent.
T'as un billet là, on t'a payé pour dire ça.
Ils leur marchent dessus hier pendant une heure. Ils leur marchent dessus. Ils doivent en mettre plus. Justement, ils redonnent sa chance à Payet, qui a fait un plutôt bon match. Bon, Gerson, il a pas été inoubliable. Je suis d'accord
Dieng,
avec toi.
Mais
il a pas été catastrophique. Dieng marque alors qu'il lui redonne. De toute façon, justement, il montre que tout le monde va être.
Donc, d'où vient le 2-2 alors ?
Concerné ? Ah ben, ça pousse à la méno. Il y a un but fantastique de Gamero en fin de match.
Oui,
je sais pas si vous avez vu le but. Il peut la retenter 50 fois. Ça part chez le voisin ou dans la tribune à chaque fois. Exceptionnel. Ils étaient habités. Moi, j'y vois aussi symboliquement le retour de Ajorc qui n'a pas été exceptionnel, mais qui, malgré tout, par sa présence, pèse et a permis à Strasbourg d'aller s'installer un peu chez les Marseillais. Mais moi, j'y vois. Un Tudor dans sa logique, effectivement, il a relancé, c'est sain parce qu'il relance des mecs qu'on pensait ou qu'on avait considéré comme étant au placard, et effectivement, tout en gardant sa logique, parce qu'on imagine que si les gars qui étaient, s'il a mis Payet, Dieng hier titulaire, c'est qu'il reconduira ce qui est jusque-là son équipe type pour le match de l'année.
C'est un bon match hier de l'OM.
Ils
font une très très bonne heure hier à Strasbourg, les Marseillais.
Sarah, il ne s'arrête pas au résultat, Simon. Il voit le plus loin.
Non, Sarah. Mais je suis tout à fait d'accord avec
Stephen.
Avec les remarques de Stephen, ouais. Okay. Effectivement, le fait d'ouvrir le banc et de faire entrer des joueurs qui n'ont pas joué et qui ont peut-être une petite dent contre Tudor, est-ce que c'était la bonne solution pour
Échec de Tudor pour vous, en tout cas ce de partout qui est vécu évidemment comme une défaite du côté de l'Olympique de Marseille et comme une victoire du côté des Alsaciens. Allez, une deuxième information, les Lakers ont subi leur 5e défaite en 5 matchs de NBA. On s'en fout ? On s'en fout pas ? Sophie Camoun.
Je vais être désagréable, mais là je m'en fous aussi.
T'as pas envie de parler. Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Stephen Drin.
Moi je m'en fous.
Sarah Pitkovski.
Ben là, je m'en fous parce que je ne suis pas la NBA. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ?
Eh ben alors, on va donner la parole à Simon. Ils ont perdu 111-102 contre Minnesota. C'était la nuit d'avant. Ils ont égalé le plus mauvais début de saison de la franchise depuis son installation à Los Angeles. C'était dans les années 60. Et ils sont plus qu'à 3 défaites du pire début de saison de leur histoire. Alors qu'il y a quand même un certain LeBron James et puis il y a Westbrook,
ils
Davis.
Ils ont drafté Victor.
Dans l'équipe, Simon.
Moi, je m'en fous pas. Je m'en fous vraiment des Lakers. Je suis pas un immense fan de LeBron et Anthony Davis. Il y a un truc qui m'agace, c'est qui commence d'ailleurs à agacer, on a commencé à entendre certaines stars de la NBA s'élever contre ça, c'est le traitement médiatique qui est réservé à Russell Westbrook, qui est donc la troisième étoile de cette équipe, ajouté l'an dernier, qui est un joueur, je parle sous le contrôle de Stephen, atypique, qui sera Hall of Famer, mais qui malgré tout est très vivement critiqué. Alors oui, il perd des ballons, oui, il est pas très fiable au shoot, mais en gros, on colle tous les mots des Lakers sur les prestations pseudo-catastrophiques de Westbrook. Là, les derniers matchs, il sort du banc et les Lakers perdent quand même. Je suis content que des mecs comme Kevin Durant, avec qui il a eu l'occasion de s'embrouiller, son ancien meilleur copain de Oklahoma, ait fait remarquer récemment que faut arrêter un petit peu les bêtises parce que on ne traite pas un joueur de ce niveau-là comme ça. Donc ça me fait plaisir que les Lakers perdent et que ce soit plus tout à fait uniquement à cause de Russell Westbrook.
Ça va, on ne te dérange pas, Sophie ? Tout va bien ?
Non, j'écoute avec beaucoup d'attention.
Sophie qui nous a fait un très beau air zapping.
C'est...
Magnifique, bravo.
Je me rattraperai sur la deuxième.
Ok, pas de problème. Allez, tout de suite, les GG du sport qui reviennent sur RMC, qui passent la seconde. On va parler tennis. Tiens, Gilles Simon qui dispute son dernier grand tournoi à Bercy cette semaine. L'occasion de revenir sur le parcours de ce mousquetaire. Est-ce qu'on a été injuste avec Gilles Simon ? C'est la question que je pose à nos GG dans un tout petit instant sur RMC. À tout de suite.